appuyé beaucoup par les éditeurs parce que, pour avoir raison, ils pensent que les enfants sont incapables de s'identifier à des adultes. Moi, même en langue adulte, quand j'ai des personnages un peu plus âgés, souvent ils disent ah, je n'étais pas dans le premier chapitre parce que s'ils voient une personne âgée, ils vont se faire aimer le livre. C'est peut-être vrai, on ne sait rien. Ensuite, c'est vrai que le lien entre l'enfance et la peur et l'enfance et l'imaginaire, c'est quelque chose d'assez important. Pour moi, la peur, c'est vraiment être enfant, être dans son lit la nuit et se demander s'il y a un truc sous son lit qui va essayer d'attraper ton pied, puis aussi vous juste faire tuer. C'est un truc assez universel, je pense. Et dans les gens, et surtout les enfants, se reconnaissent pas mal, en fait. Les enfants sont aussi un public assez agréable, même encore au collège, pour les trucs de terreur, parce que d'un côté, ils commencent à rouler un peu des mécaniques, mais ils ont peur quand même. J'ai dit, mais ça n'existe pas vraiment. Donc voilà, c'était.
J'en écrivais un les hommes, elles sont méchantes. Hein. Et en même temps, j'écrivais un autre roman qui se passait un peu plus tard, qui s'appelle L'Anglais interrompu. Bon, les deux romans n'avaient aucun rapport entre eux. Et je me suis dit, tiens, mais je suis toujours avec mes quatre chapitres, là, si j'en faisais le noyau central d'un troisième roman, dont le héros serait le même que mon moment soldat, mais dans lequel je mettrais, parce que c'est compatible chronologiquement, je mettrais un personnage du deuxième. Donc j'ai fait ça, et ça donnait un roman qui s'appelait Méduzade, et le fantastique qui restait sous-jacent dans le premier, paf, et ça a fait éruption au milieu de Méduzade, donc dans un univers qui, au départ, était parfaitement réaliste, la France. J'ai commencé à raconter la suite de ce qui arrivait à tel personnage que j'avais laissé en froid, etc. Et c'est devenu de plus en plus déjanté parce que bon, il y avait certains personnages qui étaient morts, enfin bon, ça m'embêtait qu'ils soient morts, donc je les faisais revenir sous forme de fantômes, et puis il y en avait auxquels j'attribuais des pouvoirs qui n'ont pas dans la vraie vie. Alors, dans le mythe polaire, par exemple, ce mythe polaire, voilà, on parlait pour le héros, a un pouvoir de pénétration mentale. Et hérité de son père. C'est le seul survivant de l'Holocauste d'une secte qui s'est suicidé par le feu, lui étant le fils du gourou de la secte. Bon, pour le début dans la vie. Donc il se retrouve dans le monde normal, tout seul, il est pris à l'eau et il a cette pénétration mentale pour se défendre. Voilà. Et le cycle continue à se développer, et puis à un moment, je me suis dit, bon, il m'en faut combien pour raconter toute l'histoire. Je voulais que le dernier raconte l'histoire de l'auteur des précédents. Il fasse intervenir les personnages des précédents comme les personnages de son œuvre qui sortaient des lames de la fiction pour venir dans sa réalité à lui. Au niveau de réalisation. Bon, il en fait 9. Donc, j'ai fait cette chose qui s'appelle une généalogie. Oui, c'est pas prononçable, je suis d'accord. Ce cycle, donc ça s'appelle la vue des nuages. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je ne sais pas quelle était la
question.
Voilà, donc c'est un cadre, c'est la France entre 1950 et 2000, quoi, à peu près. Bon, il y a quand même un voyage en Finlande dans le tome 4. L'hiver, parce que j'aime bien la Finlande.
Merci.
Jacques Baudot,
vous êtes l'auteur de l'encyclopédie fantastique qui est paru chez Fredgen.
Cette encyclopédie qui, comme son nom l'indique, résume un certain nombre de connaissances et dans un certain nombre de domaines. séries télé dont ça a été beaucoup joué, 36, de séries télé de fantastique. On a eu quand même à la même époque, 4 ou 5, Charmel, Angel, etc. Je ne cite volontairement pas ça. C'est très bien, Angel, j'adore Angel. Thank you. fantômes, et c'est déjà plus complexe parce qu'on a des histoires de fantômes qui nous font sourire. Enfin, la plupart des histoires de fantômes, ça fout la pétoche.
Pour le fantastique. Et c'est vrai que des fois, j'ai des secondes de première qui regardent et qui me disent, mais c'est quoi?
jeune fille prenait plaisir à regarder, se planquer sur les bras la plupart du temps, et disait, mais pourquoi tu regardes ça puisque tu te couches là?
C'est le 19e siècle. Il y a une petite aristocratie de classe côtière avec les serviteurs. Moi, je trouve que le serviteur est une figure extrêmement inquiétante. Parce que vous ne connaissez pas vraiment qui c'est tout sur vous, et finalement, vous savez rien. Tu as même à la limite, vous appelez tout vos servants de Marie, vous savez même pas vraiment ce que vous apprenez. Donc, oui, c'est ce genre d'ambiance aussi.
Merci. Jonathan Reynolds, du coup, dans votre roman, est-ce que votre héroïne apprend des choses grâce à la peur?
J'avais juste là une petite parenthèse avant parce que je vous ai tous parlé, puis je me disais que c'était très intéressant, c'est avec l'enfance. J'ai compris comment la peur fonctionnait de façon inconsciente, en fait. J'avais avoir 5 ou 6 ans, donc assez jeune. Et mes grands frères, eux, étaient déjà à l'âge de l'adolescence. Et eux regardaient beaucoup, justement, les films d'horreur, les films de peur. Bon. C'est pas mal l'âge où tu veux tester un peu la limite et tout. Bon. Moi, j'avais pas le droit, bien entendu. J'avais 5 ou 6 ans. Je cherche comme, oh, ok, comment jamais la question de la peur ou de faire peur ou d'avoir peur. Mon appréhension de la chose, c'est la position de moi sortant de l'école maternelle, plus jeune que les garçons de l'école primaire où je rentrais, et cet univers qui était la cour de récréation, qui était un univers absolument de brutalité qui me terrifiait. Et c'est à cette époque que j'ai inventé une chose, et j'ai malheureusement pas eu l'idée de déposer le brevet parce que je serais millionnaire, qui est maintenant communément utilisé sur les voitures ou dans les appartements, qui s'appelle simplement l'alarme. C'est-à-dire que quand un être menaçant s'approchait de moi, mais il n'était pas du tout extraterrestre, c'était juste un garçon de classe au-dessus, donc CM2, genre. Et je poussais des cris tellement aigus que ça. C'était, éventuellement, ça pouvait attirer l'attention des surveillants. Lui, de toute façon, s'il n'attendait pas du tout à cette réaction, un truc de des ultrasons comme ça. Merci, là, ça me super bien la tête. Et donc j'ai inventé à ce moment-là le l'arme. Et par la suite, quand je réfléchis, beaucoup de mes personnages sont des enfants, des adolescents, et c'est pas de la littérature du tout pour les enfants, mais qui se trouvent dans un milieu extérieur qui a quelque chose de menaçant qu'ils ne comprennent pas. Bon, par exemple, quand on est dans une colère, bon, il vient de cette secte où se sont passés des éléments traumatisants, évidemment, et qu'on va découvrir petit à petit, lui les a vécus, donc lui, ça l'a traumatisé d'une certaine manière, mais en même temps, ça l'a rendu fou quelque part, et ça l'a rendu surpuissant puisqu'il a hérité de manipulation mentale de son père. Et lui, il se retrouve dans le monde normal, confronté à des psychiatres, à des professeurs, et il ne dispose que d'une seule arme, son pouvoir de manipulation mentale. C'est comme ça qu'il va se maintenir en classe en piquant les réponses dans l'esprit du prof, etc. Enfin, il va se servir de ça parce qu'il est totalement démuni. Il va devenir copain avec un garçon de son lycée qui, lui, est un jeune garçon timide, qui est le fils d'un grand philosophe. Grand philosophe. Qui reçoit le prix Athénéum, l'équivalent du Nobel. Bon. Et il est complètement écrasé par la personnalité de son père. Donc, lui, il implose petit à petit. Et alors, il y a une relation bizarre qui se fait entre lui et Cantor. D'aide mutuelle et de méfiance et de rivalité en même temps par rapport à ce père. C'est un père totalement absent, le père d'Octave. C'est un grand philosophe, mais bon, il faut à peine qu'il ait un fils. Et le fils, il se refroidit. C'est ça son symptôme. En gros, une des formes que prend le fantastique dans mes romans, c'est une caractéristique physique ou mentale d'un personnage. Bon, Octave, lui, il se refroidit, c'est un symptôme de la structure schizoïde, l'énergie ne va pas jusqu'au bout des membres, donc les mains sont froides, les pieds sont froids, bon, alors je pousse ça à l'extrême, donc lui, à un moment, il se congèle totalement, il est dans une sorte d'hôpital qui est devenu une grotte de glace, et Cantor, qui lui a intériorisé le feu de l'holocauste de la secte, donc encore qui est dévoré par ce feu insupportable, viendra le sortir de son gel. Donc ce sont deux êtres qui sont dans un monde où ils sont totalement inadaptés, et finalement, leur mécanisme de défense qui est d'ordre magique aider l'un et l'autre. C'est un peu ça le principe. Mais je ne me demande pas si ça va faire peur au lecteur. terme. C'est vrai que, bon, en écrivant la scène, que quand on a refusé la scène de l'Holocauste de la secte, c'est vrai que je vivais un sentiment d'horreur et je prenais un profond plaisir.
Ça, ça pose la question de savoir effectivement les opéras fantastiques sont-ils tous un petit peu statiques
et nazos en même temps. Ah oui, en fait, j'ai deux. Ça, c'est pas qu'une pièce à la personne.
J'aime beaucoup dans votre introduction de l'encyclopédie du fantastique, vous citez Pierre Quisseps, qui, dans son anthologie du monde fantastique français, dit que, je cite, le fantastique en littérature est confronté par le rêve, la superstition, la peur, le remords, la surexcitation nerveuse mentale, l'ivresse et par tous les états morbides. On a l'impression que dans les textes, il y a une chose, il y a plusieurs choses qui viennent se soutenir les uns les autres, plusieurs éléments qui viennent se soutenir les uns les autres pour arriver à cette espèce de culmination en fait du fantastique.
Castex, c'était un des premiers à avoir écrit un seul universitaire qui a écrit sur le fantastique dans les années 50, qui a fait une anthologie de nouvelles fantastiques françaises. Il a évidemment réuni des auteurs qui, de différentes périodes, dans un livre qui a dû paraître dans les années 50, si ma mémoire est bonne. Il a réuni donc des auteurs qui sont les auteurs, les premiers auteurs fantastiques français, qui sont des auteurs romantiques, Nerval, Théophile Gautier, qui est certainement le plus grand auteur fantastique français de cette époque-là, tous marqués par les romantiques allemands. Ensuite, il est passé au 19e siècle, alors là, avec des fantastiques qui sont très très différents, hein, parce que quand vous avez Jean Lorrain qui se drogue à l'éther et qui écrit des histoires avec des personnages masqués, ça n'a pas grand chose à voir avec, avec la main du diable de Nerval ou les histoires de Théophile Gautier. En particulier, toute la fin du 19e, c'est souvent des états morbides. Bon, des auteurs très différents. Il y a eu une grande vague d'auteurs français à la fin du siècle, ça va être Marcel Schwab. Ils sont souvent des auteurs un petit peu oubliés aujourd'hui, c'est dommage parce que Schwab, c'est quand même absolument remarquable. Chose qu'à tous les grands écrivains au 19e, les Français font assez bonne figure, mais quand même, la plus grosse part de la très bonne littérature fantastique, c'est en Angleterre. Il faut attendre le 20e siècle pour voir les Américains commencer à prendre le dessus, mais dans des conditions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Stephen King connaissait très très bien la littérature anglaise. Il l'enseignait à l'université, il ne faut pas oublier ça. Et il a eu une idée absolument géniale, c'est de prendre la figure du vampire, puis de le transposer du 19e, c'est plus Carmilla, c'est plus Dracula, mais en le mêlant pas dans les HLM, mais presque. Thank you. qu'il y avait une peur, ça rejoint ce que dit Francis, une des grandes peurs dans en France, mais sans doute dans tous les pays catholiques, c'est la peur du diable, parce que c'est celui qui en risque d'aller après la mort, et là, apparemment, d'après les descriptions qu'on a des enfers par quelques écrivains, c'est pas la joie. Sur les auteurs du 19e, pour moi, il y a un texte du 19e qui se renvoie au-dessus de tous les autres, c'est le Horla de Maupassant, qui envoie dans la peur de l'inconnu et dans la folie. Et on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a réellement un être ou si on est fou. Mais on est tellement impliqué dans le récit. Le récit est tellement jeune que le lecteur est ce jeu qui ne sait pas s'il devient fou ou s'il est vraiment un monstre invisible. C'est un texte vraiment sublime et vraiment terrifiant. Mais un problème du Horla, enfin, c'est pas un problème, mais il existe deux versions du Horla écrites par Maupassant qui sont légèrement différentes. Et il y en a un des deux. Le premier qui oriente plutôt vers du fait qu'on considère aussi Maupassant comme un auteur précurseur de la science-fiction. Et la deuxième version est beaucoup plus comme ce que vient de dire quelque chose, mais c'est pas. C'est plutôt l'hypothèse d'une folie ou de quelque chose qui est de l'ordre de la névrose que l'extraterrestre. Mais au bien connu, c'est pas l'extraterrestre, c'est mon passant. C'est pas si il a pu vraiment penser à quelque comme ça, mais enfin, quelque chose qui échappe à notre expérience commune. Et c'est intéressant de lire les deux textes. Je suis d'accord avec toi, Laurent-là, et un des textes les plus remarquables de la littérature fantastique et de la littérature de science-fiction.
Je suis quand même, juste un second, je suis d'accord avec vous, parce que l'erreur de chemin, c'est quand même, je peux tutoyer, comme la genre de dire. Donc, cette chose est définissable, et ça va justement ce qu'on disait tout à l'heure, un peu du monde, le quotidien du personnage, puis qu'il y a justement le doute de cette réalité-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que j'aime bien voir, c'est que c'est ni un fantôme, ou du moins, on ne sait pas, ni un vampire, ni, mais c'est peut-être plus fort à la fois, ou carrément autre chose. Et je pense que c'est une figure qui est très effrayante dans le fantastique, peu importe. Même de nos jours, ce que c'est ça le fun, les auteurs, ou bon, parfois le cinéma, mais c'est cette chose indéfinissable-là. Je vais citer normalement un autre auteur, la possibilité, mais je vais juste mentionner un autre auteur. Bon, au XXe siècle, l'Américain Lovecraft, donc Robert Philip Lovecraft, qu'est-ce que c'était ça? Cette horreur indéfinissable et indescriptible, blablabla. Bon, il y a peut-être beaucoup d'adjectifs qui touchent par Lovecraft, mais j'aimais beaucoup cette aspect-là qu'il nous disait, en tout cas, que très peu les vampires, c'était ces choses qui viennent d'ailleurs. Bien pour nous, ça se gagne, mais voyons, de la science-fiction, c'est ça, c'est ça, oui, mais la façon qu'il traitait, c'était vraiment effrayant, il ne fallait rien faire contre ces grands anciens-là, qui sont les voix de l'info, justement. Donc, je voudrais avoir la folie, là, que tout le monde a mentionné, là. Moi, je voulais terminer sur Lovecraft, parce qu'il a écrit des textes sur un livre qui rend fou, alors quand vous lisez, les auteurs choisissez soigneusement, parce que ça peut rendre fou.
Juste terminer avec le roman que Jonathan Reynolds vient de présenter.
Juste dire rapidement, c'est parce qu'il y a eu une petite erreur, mais c'est pas grave, surtout dans la programmation, c'est qu'il y a une couverture qui s'affiche là, qui est comme un roman, qui n'est plus disponible au Québec, ça a été écrit là, et le même truc est arrivé, là, l'éditeur, enfin, son éditeur, qui s'est acquitté, bon. Et elle a reçu, comme un peu le PDF, si vous voulez, de mon plus récent livre, mais moi, on n'avait rien dit tout ça. Dans l'analyse, qui est la légende de la guerre, qui est une nouvelle œuvre à découvrir très rapidement. Ça se passe au Québec, bien entendu. En Estrie, à Comptonville, là d'où je viens, petit village de 3000 habitants, c'est une série de la campagne et tout. Et c'est sur une femme qui tente de comprendre sa fille, alors que sa fille arrive à l'adolescence. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la adolescence de la personnage de cette mère-là, qui fait que sa vie devient de plus en plus. Pas un enfant personnel, mais